Bonjour, chers frères et sœurs. Merci, Janet, pour ton message. Bon, j'avais à cœur quelque chose qui peut vous sembler bizarre. C'est un titre pour ce que j'ai envie de dire, et qui est celui-ci, « Sortir de la règle ».« Sortir de la règle ». Dans l'islam, c'est « sortir du Coran », si vous voulez. Mais pour nous, c'est « sortir de la règle ». Et c'est vrai que quand on est chrétien, on est content, effectivement, on vit dans une assemblée merveilleuse comme celle d'Hasbrook, je peux le confesser, c'est extraordinaire, c'est bien. Et je pense que beaucoup de chrétiens sont contents de se réunir le dimanche, ils ne sont pas dans la persécution, et ils sont là, en Occident, avec pas mal de privilèges, de pouvoir être même nourris spirituellement. Et d'avoir la Bible entièrement, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, traduite en français, et même en grec, en hébreu, des versions, etc. Et on sait qu'il y a des endroits, les Cantis, par exemple, vous connaissez les Cantis. Les Cantis habitent au-dessus du Kazakhstan, ils sont dans la Sibérie, on boit là-bas de l'alcool tous les jours, et pour avoir une partie de la Bible en Cantis, il faut se lever tôt, hein, et avoir la possibilité de se tourner vers le Seigneur, c'est pour eux quelque chose de compliqué. Ça arrive, il y en a qui y vont. C'est vrai que Portes Ouvertes s'occupe beaucoup de tout ce qui est persécution, mais parfois, rien que le froid, rien que les conséquences de la désinformation et de la déculturation du communisme, on emmène des populations dans des situations sordides et terribles, quoi. On peut prier aussi pour eux, hein. Ils sont des oubliés du monde. Il y a les Tchouks, enfin bref, tous ces gens-là. Hein, voilà. Mais nous, si vous voulez, on est dans le confort, effectivement, comme tu le disais, Janet, on est tous dans le confort, et à un moment donné, le Seigneur peut nous demander de sortir de la règle, sortir du système. Et alors, d'abord un premier élément. Quand vous avez déjà entendu des gens qui ne sont pas convertis et qui disent en général, oh, les chrétiens, leur message il est simpliste, il est vraiment tellement simpliste que c'est inutile, enfin, on peut en s'en moquer, quoi. C'est quoi leur système, c'est quoi? C'est que Dieu, il y a tout d'un coup un type qui est venu et puis il dit prétendre que c'est Jésus, que c'est Jésus, il est Dieu, et que ce Dieu, c'était le Dieu du ciel qui est descendu. Bon, c'est rigolo, c'est amusant à la limite. Et puis il est mort pour les péchés de celui qui veut bien accepter qu'il soit mort pour lui ou pour elle. C'est simpliste, c'est idiot, presque. Voilà. Hein, ce genre de situation. Voilà. Nous, on préférait avoir quelque chose de plus compliqué, de plus intelligent, de plus abouti, une circulation philosophique qui nous permet de bien comprendre, et là, on sera très content. Mais quand quelqu'un vient nous dire c'est ça, et que c'est pas autre chose, bon, on a envie de s'en moquer. Dans Isaïe, au chapitre 28, et du verset 9 à 15, on voit des gens qui mènent belle vie. Ils sont très contents d'eux, et ils font comme les cantis. Ils se prennent beaucoup d'alcool, mais en fait, c'est parce qu'ils sont certainement mal dans leur peau. Et vous savez qui sont ces gens? Eh bien, ce sont les sacrificateurs, ce sont les prêtres d'Israël qui se noient dans l'alcool. Dans l'alcool. Ils pourraient se noyer dans le cannabis ou dans d'autres situations, et eux se noient dans l'alcool. Et ils disent à Isaïe, précepte sur précepte, règle sur règle, tu es en train de nous donner plein de choses qui sont merveilleuses, mais nous on se moque de toi. Hein? À Isaïe. Alors Isaïe finit par dire, mais oui, ben, puisque vous avez refusé le repos que Dieu vous a donné, que Dieu vous a donné par la règle de la loi, hein, par la règle, non pas le Coran, mais la loi, avec ce système législatif, c'était prévu que vous soyez heureux et que vous soyez dans le bonheur. Puis, résultat, vous voyez ce que ça donne. Et dit, eh bien, puisque c'est comme ça, dit Ésaïe, eh bien, vous allez être instruits un jour par des gens qui ont des lèvres balbutiantes et qui n'ont pas la richesse de votre langue hébraïque, et c'est par eux que vous allez être convertis. Et on annonce déjà à l'époque, Ésaïe annonce déjà à l'époque, hein, c'est un prophète, que par la Pentecôte, enfin, par ce message de la Pentecôte, les lèvres balbutiantes allaient transmettre le message merveilleux de l'Évangile aux Juifs, qui, eux, avaient pourtant eu tous les oracles de Dieu. Sortir de la règle. Alors, dans Ésaïe 28, versets 9 à 15, il y a tout un processus de désobéissance. Et ils arrivent à devenir déséquilibrés et à se noyer dans des systèmes, l'alcool, mais c'est peut-être autre chose, des systèmes qui évacuent ce que Dieu avait voulu dire. C'est curieux, ça. Donc, la Bible n'est pas puérile, l'Évangile est simple, il n'est pas simpliste, un enfant peut se convertir, et en même temps, c'est compliqué pour les gens qui sont intellectuellement surdoués, je dirais. Hein. Ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà. Et pour sortir de la règle, je m'aperçois que moi, je dois faire ça aussi, et que nous, chacun, nous sommes heureux dans notre assemblée d'Hasbrouck ici, mais que le Seigneur nous demande de sortir de la règle, de ne pas considérer que c'est parce que nous sommes, enfin, on peut être en Angleterre et être aussi dans la même situation, nous l'avons vu par Janet là, et puis finalement se rendre compte que le Seigneur ne nous demande pas forcément de rester de bons petits chrétiens évangéliques en train de chanter des cantiques dans un endroit où on va s'édifier. Avec beaucoup d'enrichissement personnel. Il peut nous amener à ce qu'on aille à des endroits qu'on n'a pas voulu, hein, sortir de la règle. Donc ce processus de désobéissance est arrivé, Ésaïe nous le dit, et Dieu va annoncer par Ésaïe que un peuple barbare, des peuples barbares, vont finir par évangéliser. Ceux qui normalement auraient dû eux-mêmes évangéliser le monde. Hein? Voilà. Pourquoi? Alors on le voit dans Ésaïe 28, je vous propose de prendre Ésaïe 28, et il y a quelque chose qu'il faut juste regarder, qui me semble intéressant, c'est le repos. Regardez, Ésaïe 28, il nous est dit, donc verset, voyons, 12. Hein, vous voyez au verset 12, Dieu, hein, il nous est dit que Dieu disait à son peuple, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Alors, vous savez très bien comment le peuple d'Israël a compris le système. Ils se sont dit, et nous avons eu, vous le savez bien, à partir de moins 150 avant Jésus-Christ, à peu près dans ces eaux-là, je me trompe peut-être de quelques années, mais il y a des Juifs qui ont dit, oh, cette fois-ci, pour que l'on puisse réellement faire venir le Messie, il nous faut accomplir la règle dans ses moindres détails. La dîme sur la menthe, sur la nette, sur le cumin, sur plein de choses, et là, le Seigneur. Le Messie viendra. Puis en plus, c'est vrai que un siècle et demi plus tard, il vient. Mais il ne vient pas pour être comme il l'aurait voulu. Donc, ils avaient bien dans la tête qu'il faut fonctionner comme ça. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une règle au mont Horeb, et cette règle, on va l'appliquer. Et quand on aura réussi à l'appliquer, ben, on va faire venir le Messie. Bon, aujourd'hui, vous voyez qu'il y a d'autres religions qui le disent aussi. Hein. Hein, une religion de règles aussi. Hein. Qui pensent que, ayant installé ces règles, eh bien, on va faire venir le Messie. Mais qu'est-ce que vous avez vu dans Ésaïe 28? Ce n'était pas vraiment, à mon sens, quand il est dit dans ce verset 12 que Dieu voulait le repos, ben, il ne voulait certainement pas que ces hommes, ce peuple élu, les Hébreux, s'astreignent à être dans un système de règles esclavagistes, enfin d'esclaves, quoi, hein, d'être des soumis. Hein. Non, il voulait que par ces règles, On le sait dans les Épîtres, il nous en est parlé aussi, que dans les Épîtres de l'apôtre Paul en particulier, il nous est dit que la loi était quelque chose qui devait amener, qui était une sorte de précepteur qui allait amener les hommes à être dans le véritable repos. Et vous savez, d'ailleurs actuellement Pascal fait l'étude biblique sur le livre des Hébreux, que les Hébreux de l'époque de l'apôtre Paul avaient également le même problème. Ils étaient dans des règles et ils voulaient retourner dans des règles et s'imaginaient que en fonctionnant bien, évangéliquement parlant, je dirais presque, eh bien, ça allait marcher. Et en fait, Dieu ne veut pas cela. Il veut du repos et il veut que, au travers de ces règles, nous puissions comprendre que nous devons sortir des règles. Alors, moi, j'ai vécu dans les règles. Je me souviens, j'ai eu dans mon enfance une enfance pour moi merveilleuse. Je suppose que j'ai dû zapper tout ce qui était mauvais parce que je ne me rappelle pas vraiment des endroits où il y avait de la souffrance. Parfois, je me rappelle ma maman qui pleurait, mon père, mais parce qu'on n'était pas très riches. Mais globalement, j'ai eu une enfance heureuse. Mais ce que je me rappelle aussi, c'est que papa me disait, tu dis bonjour. S'il te plaît, tu me demandes quelque chose, tu as oublié de dire s'il te plaît. Tu dois d'abord faire tes devoirs et ensuite tu iras jouer. Et vous savez, j'avais du mal, moi. Hein. Je préférais plutôt jouer que d'aller faire mes devoirs. Hein. Bon, c'est toujours comme ça, d'ailleurs, aujourd'hui. Mais bon, ce qui fait que y a eu des règles. Et bon. Je n'ai pas passé une adolescence très, très, très dangereuse pour mes parents. Enfin, ils n'ont pas tout su, parce que s'ils avaient su ce que j'avais fait, peut-être qu'ils auraient eu peur. Hein. Bon. Mais après cette période où on remet en cause les règles de nos parents, il arrive un certain temps, ça peut prendre des années, regardez, moi, ça prend des années, où je fais une rétrospective sur les règles que mes parents m'ont données. Et je me suis aperçu que ces règles étaient bonnes, agréables et parfaites, je pourrais même dire. Mais je pense que mes parents étaient assez intelligents pour me donner des règles et ensuite pouvoir me dire, tu sais, ces règles-là, tu peux zapper, tu n'as plus besoin. Tu dors à 10 heures du soir, c'est bon pour l'enfant. Et encore, c'est peut-être, enfin, je ne veux pas donner de mauvaises idées aux mamans, hein. Peut-être que c'est parfois à 9h ou à 8h, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Et puis, après, on a la permission de minuit. Si les parents savent qu'ils peuvent compter sur leurs enfants pour être assez matures pour le faire. Donc, il y a des règles qui sont des règles à tel moment et qui ne le sont plus après. Et je me suis dit, mais oui, mais effectivement, le Seigneur fait la même chose avec nous. Il nous met dans des règles. Et ensuite, quand nous grandissons, qu'est-ce qu'il est content? Il est comme des parents qui arrivent à parler avec leurs enfants d'égal à égal. C'est-à-dire que moi, je parle avec mon fils aîné, avec tous mes fils et ma fille, on parle d'égal à égal maintenant. On va pas dire, écoute, tu fais tes devoirs maintenant et puis tu iras jouer après. Ou tu iras même pas jouer parce qu'il sera trop tard. Hein, et donc tu iras dormir. Non. Mais c'est la même chose. On s'aperçoit qu'avec le Seigneur, c'est la même chose. Je dis, mais oui, effectivement, le Seigneur nous a donné des règles. Mais ce n'est pas pour la règle en elle-même. C'est pour que, à partir de cette règle, nous puissions sortir de la règle et puis être dans une autre situation où on a d'autres règles. Il faut arriver au boulot à 8 heures, hein, puis partir à 5 heures, ou je ne sais pas, ou hein, la nuit, tu dois dormir. Bon, bien sûr, mais si tu es veilleur de nuit quand tu es adulte, tu n'as pas intérêt à dormir la nuit, parce que là, c'est pas tout à fait ce que ton employeur te demande. Donc, les règles peuvent changer. Alors, ce lieu du repos, qui est dans Ésaïe 28, c'est bien quoi? C'est le fait de sentir qu'on est bien chez soi, qu'on est bien dans sa maison. Le lieu du repos, c'est parfois d'aller chez les grands-parents ou chez les parents lorsqu'on est adulte et on retrouve le repos dans la maison des parents. Quelque chose qui ressemble, je dirais, au repos que Dieu veut installer dans notre cœur. Un repos qui n'est pas installé sur des règles, mais qui est installé sur la certitude que Dieu nous aime dans toute situation. Pour nous persécuter, ils savent que Dieu les aime et ils sont dans des situations où, justement, la souffrance les amène à être totalement presque en dépendance de cet amour de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Et quand vous voyez dans le psaume 19, je vais dire l'apôtre Paul, non, c'est pas tout à fait ça, c'est donc plutôt David, eh bien, on voit qu'il ne regarde pas la parole de Dieu comme un système de règles. Il a dans le comportement qui transparaît dans ce psaume 19, c'est qu'il est content d'être dans la loi de l'Éternel. Et pourtant, vous voyez qu'il y a d'autres qui sont dans la loi de l'Éternel, du temps de Jésus, et qui veulent y mettre plein de gens, hein, et qui s'astreignent à faire quelque chose pour être pour se sentir bien avec Dieu, et puis finalement, ils n'y sont pas, quoi. Hein, voilà. Voilà. Alors, ce que je veux vous transmettre, c'est que désobéir est devenu une carrière professionnelle, une vocation religieuse. Désobéir tout en étant de bons chrétiens. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. Hein. Et cette vocation, c'est s'imposer des règles et surtout les imposer aux autres. Toutes les formes de religion, quelles qu'elles soient, elles en sont arrivées là. Toutes les formes de religion. Je vous donne un premier exemple, c'est dans Colossiens, au chapitre 2, verset 16, à Colossiens, chapitre 3, verset 4. Colossiens 2, 16. Ils avaient des problèmes, ces Colossiens. C'est peut-être Philémon, hein, ou Onésime, parce que Philémon, Onésime, ils font partie de Colosse. Hein. Ils ont des relations avec l'apôtre Paul, vous les connaissez. Et puis, il nous a dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Vous avez le droit de manger du porc. Vous avez le droit de boire de l'alcool. Enfin, pas trop, hein. Vous avez le droit de manger des araignées, du serpent, si c'est votre culture. Enfin bon, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Waouh, à ce point-là! C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont tellement être influencés par le système de règles dans lequel ils sont que finalement ils vont oublier Jésus et son salut et dire non, ça c'est pas important, ce qui est plus important c'est la règle. Voilà. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, ou je dirais à la place de principes élémentaires, on peut dire aux règles. En France, on a des règles qui ne sont pas forcément mauvaises, mais enfin, il y en a certaines qui sont mauvaises. Mais c'est pas comme ça qu'on va arriver au salut. Hein. Si vous êtes mort, verset 20, aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on encore ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. C'est une description de la règle. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ paraîtra, enfin, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, on sent qu'il y a quelque chose là du genre, vous êtes bon, des bons chrétiens, vous êtes à Colosse, vous êtes dans une bonne église, et vous commencez à avoir du prestige au niveau de ceux qui sont à l'extérieur. Méfiez-vous, c'est la gloire que Dieu a pour vous, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Pour l'instant, restez petits. Étienne, reste petit. Restons petits. Voilà. Que personne ne vous juge au sujet de la règle que vous vous êtes appliquée. Voilà. Dans Galates, vous avez vu, même chose. C'est curieux, c'est un virus, ça doit être la grippe, je suppose, la grippe spirituelle. Hein, on voit dans Galates, au chapitre 6, ils ont la grippe. Enfin, c'est pas la grippe avec un virus, c'est une grippe spirituelle. Verset 12, tous ceux qui veulent se rendre agréables, Galates 6, selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Donc là, c'est plus intelligent. Écoutez, faites-vous circoncire. C'est quand même mieux. Parce que comme ça, on aura moins de problèmes avec la population, qui est probablement très judaïsante. Et puis voilà. Donc, rentrez un peu dans le moule, pas trop, mais juste ce qu'il faut, et puis ça ira. Moi, je dis, c'est pas idiot cette histoire. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a fait lui-même avec Timothée. Pour que Timothée puisse venir avec lui et qu'il aille dans les synagogues, eh bien, il a dit, je vais te circoncire, et puis comme ça, on n'aura pas trop de problèmes, on pourra rentrer dans les synagogues. Et en même temps, ici, l'apôtre Paul fait le contraire. Et il dit, non, 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 faut surtout pas faire ça. Parce que c'est dans la mentalité d'une règle que ces Galates sont entrés. Alors que dans la mentalité de l'apôtre Paul avec Timothée, dans cette action de circoncire Timothée, c'était uniquement dans le but de pouvoir efficacement à annoncer l'évangile. On le voit bien. Donc, il veut faire ça pour que vous ne soyez pas persécutés pour Christ. Car les circoncis eux-mêmes, ils n'observent pas la loi. Donc, il y a certaines règles qu'ils veulent prendre, puis ils sont hypocrites parce qu'en fait, ils ne font pas toute la loi. Alors, ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair, ils ont compris. Et finalement, ils sont contents, ils ont en quelque sorte un peu assujetti certains chrétiens qui veulent rester fidèles. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez qu'il y a encore un problème de gloire, comme dans les Colossiens. Et que la gloire, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Curieux, hein? Donc, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il y a une séparation, il y a quelque chose, pas de règle. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Troisième exemple. Matthieu, c'est Jésus qui parle et qui dit quelque chose qui est assez violent, et il dit « Malheur à vous ». Il parle à ces Juifs qui sont dans leurs règles et qui voudraient installer leurs règles, même l'imposer à Jésus. Et donc dans Matthieu 23, vous voyez au verset 13 à 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Car parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux par votre système, hein, il n'est pas marqué, mais c'est ça, par vos règles, vous fermez le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est inouï. Le système que Dieu avait mis en place pour que les gens entrent dans le repos de Dieu est devenu un obstacle au repos de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières à cause de ça, vous serez jugés plus sévèrement. C'est-à-dire qu'il y avait absolument dans leur comportement quelque chose qui était absolument à l'inverse de la règle qu'ils s'étaient eux-mêmes imposée, qui était de s'occuper, parce que dans la loi, on voit qu'il faut s'occuper du pauvre, il faut s'occuper des veuves, des orphelins. Et en même temps, ils disaient le faire et ils ne le faisaient pas. Hein. Malheur à vous, verset 15, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre. Donc on a même l'impression, vous voyez, ils s'en vont en bateau, ils sont missionnaires, ils s'en vont en bateau, ils arrivent à un endroit, et de là, ils montent dans la terre, ils vont voir un tel, et puis ils en font un prosélyte. Il nous a dit, vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, deux fois plus que vous. C'est vrai ça, on voit bien que dans certaines religions, les prosélytes sont beaucoup plus virulents que les gens du cru, si vous voulez. Et c'est ce qui se passe. La règle, sortir de la règle. Quatrième exemple, 2 Timothée 3, versets 2 à 5. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Ce sont des règles qui se sont imposées, je suppose. Mais vous voyez qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, enflés, emportés, enflés d'orgueil, emportés, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. L'apparence de la piété, comme nous l'avons vu dans Matthieu, là, hein, c'est-à-dire ils ont la règle, mais finalement, quand il y a une veuve et qu'on peut récupérer le fric, eh ben, on le fait, quoi. Je veux dire, hein, vous voyez la situation qui se passe. Alors évidemment, nous, on ne connaît pas ça, on n'est quand même pas des chrétiens évangéliques arrivés à ce genre d'hypocrisie, mais c'était pour vous montrer que le peuple d'Israël avait une règle. Et que cette règle, ils faisaient semblant de l'appliquer et qu'ils n'y étaient pas. Alors, c'est pour ça que dans Ésaïe 28, qu'on avait évoqué tout à l'heure, il y avait eu un processus de désobéissance. Ces gens étaient mal dans leur peau, la preuve c'est qu'ils buvaient de l'alcool. Et Dieu leur dit, par l'intermédiaire d'Ésaïe, vous n'êtes pas rentrés dans le repos. La parole de Dieu vous est devenue inaccessible. Et puis, dans Ésaïe 28, on voit encore autre chose. On voit au verset 16 et 17. Hein. Vous reprenez Ésaïe 28, si vous voulez, et puis vous voyez que dans le verset 16 et 17, il nous est dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. » Ben, Dieu, il insiste. Hein. C'est un caillou? Non, c'est une pierre. C'est une pierre angulaire qui sert à construire. Mais ce n'est pas simplement une pierre angulaire. C'est une pierre angulaire de prix. Elle est très précieuse. Mais ce n'est pas simplement une pierre angulaire de prix très précieuse. Elle est aussi solidement ancrée, solidement posée. Ah. Et puis, en plus, elle a cette capacité, c'est que celui qui se met dessus, ben, il ne va pas fuir. Il va rester campé sur cette pierre angulaire, bien solide, parce qu'elle est d'une stabilité et d'une puissance qui dépasse tout. Et vous savez bien, cette pierre angulaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mort pour mes péchés, qui me permet de rien et tout, avec un regard différent de ce qu'il y avait avant, où j'étais dans les règles et dans des systèmes où je me disais, je vais trouver une petite recette de cuisine pour m'échapper, pour me sauver. J'ai plus besoin de me sauver, je suis sauvé. Le Seigneur a donné tout ça pour moi. Et je serai un jour ressuscité avec lui. C'est merveilleux. Une pierre comme un fondement éprouvé de grande valeur, posé, indécelable, indécelable, je ne sais pas si c'est français, qui ne peut pas être décelé. Voilà. Hein? Mais, au verset 17, il dit, voilà, je ferai de la droiture une règle. Ah, bon, on va encore rentrer dans une autre règle. Oui, si on veut. Mais vous voyez, Dieu dit là, quelque part, je vous ai donné tout un panel de règles, mais il y a quelque chose là-dedans qui devait vous amener à la maturité. Et la maturité, c'est d'être dans la droiture. Mon petit, tu fais d'abord tes devoirs et ensuite tu vas jouer. Et ben, c'est la même chose pour les sacrificateurs qui, au lieu de faire leurs devoirs, sont allés jouer et puis ça les a joué de telle manière que c'était vraiment la gabegie, l'orgie. Ils le disent, hein, c'est, quand vous voyez verset 28 au verset 8, c'est l'orgie. Hein, c'est l'orgie. Bon, voilà. Donc, la droiture, une règle. Verset 17. Et la justice, un niveau. C'est difficile d'être juste. Quand on veut vraiment être juste, on s'aperçoit qu'on n'arrive jamais à être bien juste parce qu'on ne connaît pas tout. Mais si au moins on fait pas semblant, c'est quand même mieux. Hein, voilà. Donc la justice, un niveau, et la droiture, une règle. On comprend que l'homme est très intelligent et astucieux. Mais s'il n'est pas honnête et s'il est dans l'iniquité, naturellement, il va échouer. C'est pas une question de capacité. Quelqu'un peut avoir des règles impeccables, tout ce qu'il faut, mais finalement, s'il n'est pas dans la droiture, s'il n'est pas dans la justice, c'est fichu. Et quand vous voyez ce qui se passe au niveau de nos gouvernants, je ne parle pas de la France seulement, mais de tous les gouvernants, de tout partout, ils ont une intelligence qui fonctionne merveilleusement bien. Mais ils sont dans des règles, et la droiture et l'équité ont en général quitté le navire. Voilà. Chercher la justice, non par la foi, mais par un processus de règles. Vous prenez Romains chapitre 9, et finalement la Bible parle souvent de ce genre de choses qui est de sortir de la règle, sortir de la foi en la règle pour placer notre foi en Dieu. Voilà. Et dans Romains chapitre 9, verset 30 à 10, verset 4, il nous est dit: voici en effet la parole de la promesse. Je reviens à cette même époque et... je suis en train de dire des bêtises, excusez-moi. Je parle du verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non pas par la foi, mais comme provenant des œuvres. On le sait, Martin Luther nous l'a dit bien des fois, alors on le sait culturellement, on le sait en tant que protestant, c'est sûr. Mais, attendez, on va continuer. Hein. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, dont on a parlé tout à l'heure. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. C'est ce que nous avons évoqué ensemble, cette espèce de structure sur laquelle nous sommes assis, qui fait qu'on a la foi en ça, et qu'on peut être en train de foncer vers nous à toute vitesse pour nous tuer, détruire, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui nous rend solide, hein, qui est cette pierre angulaire. Frère, le vœu de mon cœur, chapitre 10, verset 1. Et ma prière à Dieu pour eux, pour ceux qui sont dans la règle, c'est qu'ils soient sauvés. Et je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Ah, il en sait quelque chose, l'apôtre Paul. Parce que lui, il en avait du zèle, hein, et il tuait des chrétiens, hein, comme aujourd'hui on tue du chrétien. Et il était comme ça, il avait du zèle pour Dieu. C'était la règle, c'était le truc qu'il fallait faire pour être sauvé. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ça, on peut le dire. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Dieu est la fin de la loi, Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, on pourrait traduire, et au lieu de mettre loi, on met règle. Et on voit qu'on est facilement, nous on dit bon, on n'est plus dans la loi, mais parfois on est dans des systèmes de règles. C'est bien le cas des religieux qui s'imposent des règles comme moyen de salut. Les religieux s'imposent des règles comme moyen de salut. Est-ce que je suis religieux? Est-ce que mes frères et sœurs, vous êtes religieux? Est-ce que ce sont les règles qui vous donnent le moyen de salut? C'est à voir dans votre tête, il n'y a que vous qui pouvez dire, hein, ce qui s'y passe. Hein. Le baptême? Oh, moi je suis baptisé. Oh, c'est bon. Le baptême catholique, hein, ou même le baptême évangélique, hein, d'adulte. Hein. Le baptême? Non. La communion? La bar mitzvah? La shahada? Pourquoi pas? Les sacrements catholiques. Hein. Je vais peut-être vous faire de la peine, mais le parler en langue. Ben là, ils disent, il faut ça. Hein. Les rites initiatiques, la circoncision, les cinq piliers de l'islam. Puis on peut en rajouter. Toutes les religions font des systèmes à règles. Voilà. Vous faites tout ça et vous êtes sauvés. Pourquoi pas mélanger tout ça, hein. À la limite, il y en a qui seraient capables de faire du syncrétisme et puis à tout mélanger. Hein. Voilà. Mais Dieu n'avait pas codifié des règles. pour que ces règles deviennent le salut, la méthode du salut. Ces règles servent de démonstration, elles disent, tu vois que tu es pécheur, repens-toi, et tu vas devenir plus tard plus mature. Ces règles ont été détournées, elles servent à établir une religion, et elles disent, tu vois, tu seras moins pécheur lorsque tu auras accompli telle ou telle règle. Et tu peux avoir l'espoir qu'un jour, peut-être, tu auras gagné ton salut. Dans Romains 9, 31, il nous est dit, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. On pourrait dire autrement, Israël, qui cherchait une règle qui rend juste, n'est pas parvenu à réussir, à accomplir les règles de Dieu. Pourquoi ? Parce que Israël l'a cherché, non en plaçant sa confiance dans l'efficacité de la justice de Dieu, mais comme un objectif purement humain, placé sur l'horizon et où l'on croit pouvoir atteindre cet horizon, la règle. C'est subtil, c'est le chrétien, je peux être touché par ce genre de maladie, de ce genre de virus. La perfection selon l'homme, le progrès, la construction d'un édifice qui ne peut que gagner. L'édifice que nous construisons ne peut que gagner. Et c'est quoi cet édifice ? C'est l'Église, par exemple. Hein ? L'Église, comme dans les religions officielles, on l'imagine, cette Église va réussir à gagner. Et quand elle aura gagné le monde. Et au lieu de mettre l'Église, on met la Houma, c'est le même truc. C'est le même truc. Une communauté qui va gagner, qui produira, c'est certain, le bonheur qui touchera même le ciel. Hein? Hop, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc nous, les chrétiens évangéliques, on se méfie de tout ça. Hein? Beaucoup des systèmes et de règlements, des contrats passés entre tel organisme et nous, parce que ça peut nous asservir. Et comme on sait que ce qu'est l'esprit humain, puisque nous sommes humains, on se méfie de toutes ces règles. Hein? Et on veut faire de nous des esclaves d'un nouveau système. Alors dans 2 Corinthiens 6,14, il nous est dit, 2 Corinthiens 6,14, il nous est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Parfois on se sent, bon, parfois ce sont peut-être pas même des infidèles, hein, mais nous pouvons légitimement penser parfois que c'est quand même un joug étrange ou étranger à ce que Dieu désire. Il peut y avoir des systèmes de règles qui sont mis entre chrétiens, auxquels on n'est pas obligé d'adhérer. Hein. Et dans le verset 17, il nous est dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Donc pour les Corinthiens, c'était simple, il y avait quand même pas mal de débauches là-bas, donc pour eux, ils savaient bien la différence. Mais c'est le même principe, sortir de la règle. Sortez du milieu d'eux. Quand Dieu dit, soyez saints car je suis saint, il dit dans une certaine mesure, soyez à part comme moi-même je suis à part. Donc, faites attention, ne prenez pas toutes les règles qu'on vous donne pour celles qui viennent de Dieu. À vous de choisir, mais vous êtes devenu mature, et a priori, en tant que chrétien mature, vous savez lesquelles prendre. Parce qu'on a toujours des règles, hein, forcément. Si le dimanche matin, chacun avait sa règle, il y en a qui viendraient à 11h, d'autres à 9h30, et puis ça n'irait pas. Et puis il faut quand même une structure. Hein. Mais on sent bien que ces règles ne sont pas immuables. Mais il en faut. Nous avons donc dans notre comportement une saine réaction. Nous sommes toujours prêts à nous séparer de ce qui est impur. C'est bien. Seulement, voilà, certains chrétiens ont fait des règles. Quelquefois, c'est terrible. On chante dans tel cantique, dans telle église, à telle heure, le premier jour de la semaine, etc. Tous ceux qui font comme ça, on dit c'est bien. Où on dit « Oh, c'est pas bien. » Enfin, chacun a son truc. À Roissy, il y a des gens qui se réunissent le vendredi parce qu'ils sont toujours de week-end. Ils travaillent le week-end. J'avais entendu ça, c'était un frère que je connais qui travaillait donc à Air France, quoi. Et donc, il y en avait qui étaient bagagistes, je ne sais plus quoi, enfin bref, des gens qui étaient des chrétiens et qui se réunissaient le vendredi comme les musulmans, hein. Mais enfin, ils faisaient donc, la règle pour eux, c'était le dimanche, c'était le vendredi, hein. Mais oui, bah, y a des gens, ça les embête. Il y a des gens, on peut pas chanter autrement que sur les hymnes et cantiques. Et ils vous regardent en disant, mais t'es pas chrétien, toi. Enfin, je me souviens d'une personne qui j'ai eue en face de moi et qui me regardait avec des yeux scandalisés parce qu'on chantait pas dans tel type de cantique. Bon, on n'en est pas là, hein, bien sûr. Mais on peut arriver dans une assemblée où tout d'un coup, les dames qui viennent, qui sont là, qui sont touristes, arrivent, et puis une sœur bien, bien, bien intentionnée dans l'assemblée, va chercher, les voiles qui sont là pour les donner aux dames, sans sourire et sans rien, en disant, enfin bon, ils ont compris, une femme sanctifiée doit avoir le voile sur la tête. Je veux dire, ce genre de situation où nous sommes, hélas, chrétiens, parfois. Terrible. Il y aurait eu un sourire en disant, écoutez, vous savez, ici c'est comme ça qu'on fait. Oh, ben, il n'y a pas de problème, hein, on fait comme chez vous. Mais voilà. Il n'y a pas le sourire. Et s'il n'y a pas le sourire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas l'amour. Et s'il n'y a pas l'amour, on a envie de pleurer. Et quand on va prendre dans Josué au chapitre 24, on va prendre quelque chose aussi tout à l'heure. Mais c'est ça aussi, c'est exactement ça. Quand il est dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte de l'Éternel? Ça veut dire j'ai peur de Dieu? Ben, j'ai envie de vous dire non. La crainte de l'Éternel, c'est ce que nous voyons sur le lac de Galilée. Sur le lac de Galilée, il y a le rabbi qui est dans la barque et qui est avec Pierre. Et Pierre qui est un patron pêcheur très expérimenté, qui connaît le lac par cœur, puisqu'il est entrepreneur en pêche, hein, de pêche, et il a des hommes sous ses ordres, il sait où il y a du poisson. Il sait. Pas la peine de lui dire, il le sait. C'est un technicien hors pair en poisson. Et Jésus lui dit, jette ton filet là. Et vous savez ce qu'il dit. Il dit, mais. Il a envie de. On a l'impression qu'il sourit et lui dit, mais puisque c'est toi qui me le demandes, je vais le faire. Et il le fait en disant, bah, ouais, mais tu vas voir, moi je sais très bien qu'il n'y en a pas là. Là, il n'y en a pas. Et puis, après, ils n'arrivent plus à sortir le poisson hein, ils arrivent, hein, vous connaissez l'histoire, hein, on le dit aux enfants, on le dit à tout le monde, connaît bien l'histoire. Mais il y a peut-être un passage de l'histoire que j'aimerais bien vous souligner. C'est que l'apôtre Pierre, il regarde Jésus et il dit, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et ça veut dire quoi? Il a pris conscience qu'il a en face de lui non pas un rabbi qu'il considère comme important, hein, il ne le prend pas pour un imbécile, mais il se rend compte que cet individu est autre chose qu'un être humain. Il est humain et en même temps il est autre chose. Et c'est pour ça qu'il sent. Il a la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il prend. Comment dire, il saisit tout d'un coup qui est la personne qui est en face de lui et il est émerveillé. Il se dit, c'est quelqu'un qui est fabuleusement au-dessus de ce que j'imagine même. Et j'arrive même pas à imaginer la grandeur de cette personne qui est là à côté de moi, le rabbi Yeshua de Nazareth. Et donc, c'est ça le commencement de la sagesse. On en a parlé tout à l'heure dans le petit diapo d'Alex. La crainte de l'Éternel, c'est-à-dire c'est cette communion que tout d'un coup, elle commence à se faire avec Dieu. Cette situation où on commence à comprendre qu'on est campé sur le rocher, la pierre angulaire. Et quand la pierre angulaire est là, on sent que c'est quelque chose de costaud. Et en même temps, on se dit, mais je n'arrive pas à mesurer la grandeur de celui qui est là devant moi. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est carrément autre chose que de dire, ouais, bah écoute, Je vais faire des règles pour être en communion avec toi. Je vais même appliquer des règles supplémentaires pour être plus près de toi, Dieu. Tu vois, je vais y arriver, moi, tu sais, je suis assez costaud, intellectuellement parlant, physiquement. Enfin, toutes les richesses de ma personne vont permettre que je m'approche de toi et tu vas voir, tu vas être admiré. Tu vas m'admirer. Non, c'est pas tout à fait ça, non. Non. Ce qui se passe, c'est plutôt, on a tout d'un coup l'impression, comme l'apôtre Pierre, que c'est horrible le sentiment de petitesse devant cette personne qui m'amène à être dans la crainte de l'Éternel. La crainte, alors, hein, quand vous dites ça à quelqu'un de l'extérieur, il vous dit, mais vous avez peur en Dieu, là? Non, 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 c'est pas ça que j'ai voulu vous dire. C'est que quand on commence à comprendre qui est Dieu, c'est comme un sentiment de crainte. Mais c'est pas la même chose, c'est pas une terreur. On a le sentiment de se retrouver devant quelqu'un de tellement grand qu'on voudrait être tout petit, quoi. Voilà. Certains chrétiens ont fait une règle. Je vous dis, toutes sortes de règles. Voilà. Alors, sortir du camp. Il faut sortir de la règle. Ce n'est pas pour construire un autre camp et une autre règle. Hein, dans Galates au chapitre 1, au verset 6 à 10. Galates 1, 6 à 10. Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, ils se sont même peut-être pas même rendu compte, et c'est peut-être l'apôtre Paul qui leur dit, eh, oh, vous n'êtes plus dans l'évangile, vous êtes dans les règles. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel, qui s'appelle Gabriel ou n'importe qui, annoncer un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit plus que maudit, anéanti, anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Quel est l'évangile que nous avons reçu? Nous sommes sur la pierre angulaire. C'est Jésus, c'est tout, point. Même s'il y en a qui se moquent, eh ben, il n'y a pas d'autre endroit où nous sommes ancrés et solidement posés. Sur la pierre angulaire, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Mort pour mes péchés, ressuscité pour ma justification et pour vous, mes chers frères et sœurs. Et maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche, que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Bah, pourquoi on voudrait plaire aux hommes? C'est plutôt aux hommes de s'approcher et de voir sur quelle pierre angulaire nous sommes installés. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ah ouais? Donc ça veut dire que quand on veut être serviteur de Christ, il faut que nous soyons dans cette situation. Voilà. Alors, Galates chapitre 3, verset 18, il nous est dit aussi, dans Galates chapitre 3, verset 18, si l'héritage venait de la règle, ouais, enfin j'ai marqué la loi, si l'héritage venait de la règle, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Quand on regarde bien, et on en parle ici, et s'il y avait des juifs parmi nous, eh bien, ils devraient savoir qu'on n'est pas fils d'Abraham comme ça, et que, en fait, ce n'est pas être descendant d'Abraham qui est important, mais d'être dans l'esprit de la foi d'Abraham, n'est-ce pas? L'apôtre Paul explique que revenir à un système de règles, c'est revenir à un vieux système qui n'était là que temporairement, parce que Paul insiste sur la promesse faite à Abraham. Cette promesse, ce n'est pas de construire des lois, des règles sociales ou religieuses. Cette promesse, c'est d'être ami de Dieu, par la confiance placée en Dieu, et non la confiance placée dans des actions faites pour Dieu. Alors, si mes fils et ma fille venaient me voir et qu'ils étaient dans un processus de règles pour faire plaisir à leur papa ou à leur maman, et si ça vous arrive, dire mais fiston, moi je n'ai pas besoin de règles avec toi, on est d'égal à égal. Enfin bon, la relation, enfin je veux dire, la relation qu'on veut avoir avec nos enfants, que nous avons mis dans des règles, c'est pour qu'ils sortent de ces règles et que, arrivés matures, ils arrivent à parler d'égal à égal avec leurs parents. C'est exactement la même chose avec Dieu lui-même. C'est merveilleux. On va remplacer le terme loi par le mot règle dans les versets suivants, versets 19 à 23. Pourquoi donc la règle? Hein, nous sommes dans, je sais bien, si je ne me suis pas trompé, on est toujours dans Galates, hein, Galates chapitre 3. Pourquoi donc la règle? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Il n'est pas médiateur, il n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul médiateur, c'est-à-dire que il a fallu plusieurs médiateurs, et puis que il a fallu être médiateur avec d'autres. Là, Dieu est un seul. La loi, la règle, est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une règle qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la règle. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ, par cette foi en la pierre angulaire, à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la règle, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la règle a été comme un précepteur, un éducateur, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes maintenant... Parce que vous êtes des adultes en Christ. Vous êtes plus des enfants, vous êtes des adultes. Hein. L'apôtre Paul dit cela. Hein. Car vous êtes tous fils de Dieu, fils de Dieu. Donc, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, la véritable descendance d'Abraham. Héritier selon la promesse. Donc la justice ne viendrait pas de la règle. Non, elle ne vient pas de la règle. Pourquoi donc une règle n'est pas possible? Vous allez me répondre que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Oui, mais pourquoi Dieu l'a voulu ainsi? Alors on revient à Ésaïe 28. On va s'arrêter là, hein. Rassurez-vous. On revient à Ésaïe 28. Et dans Ésaïe 28, on voit tout d'un coup, une parabole. Ésaïe 28. Et je pense que... Enfin, on a toujours du mal. Moi, j'ai du mal, en tout cas, je ne sais pas si vous avez du mal, à comprendre la pensée de Dieu. Hein? On a du mal à comprendre la pensée de Dieu. On comprend certaines choses, mais... Voilà. Et donc, Ésaïe, chapitre 28, versets 23 à 29, nous avons une parabole du cultivateur. Mais on va essayer de sortir et d'essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire par là. Mais il nous dit quelque chose. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix. Hein? Ésaïe 28, 23. Soyez attentifs, écoutez ma parole. Quand tu laboures, est-ce que tu sèmes en même temps? Est-ce que tu casses ton terrain tout le temps? Est-ce que quand tu as passé le rouleau, tu... C'est à ce moment-là que tu vas mettre la nette et le cumin, parce qu'a priori, ils devaient certainement cultiver du blé et ils mettaient déjà les petits agréments, les condiments dedans en même temps, je suppose. Hein. Ça doit être ça, certainement. Tu mets le froment de telle manière. Et puis, l'orge, tu le mets à tel endroit. L'épeautre sur les bords, ça on sait, ça je sais, vous devez le savoir aussi, c'est que l'épeautre a des tiges bien plus costauds, ce qui fait que si le vent arrive, si vous voulez, les tiges de la barrière que ça fait autour du champ empêchent le blé qui est à l'intérieur de tomber. Hein, donc on met forcément les graines avec les tiges plus costauds sur les bords, hein, l'épeautre sur les bords. C'est son Dieu qui lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné des règles, hein, en gros, hein, il lui a donné ses instructions, on ne foule pas là. La nigelle, ou plutôt la nette, enfin, ça dépend des traductions, parce que la nigelle, il paraît que c'est toxique. Bon, alors je m'étonnerais qu'il mette des trucs toxiques dans son champ, le monsieur. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau, ou la nette avec le traîneau, et la roue du charnier ne passe pas sur le cumin. Et on bat la nette avec le bâton, et le cumin avec la verre. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du charnier, mais on ne l'écrase pas. Enfin, vous voyez, voilà. Bon, bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est une description de l'activité du laboureur et du cultivateur. Ils n'ont pas de tracteur à l'époque, ils n'ont pas d'internet qui leur permet de savoir où est-ce qu'il faut mettre plus d'engrais et moins d'engrais, mais ils ont quand même pas mal de techniques. Hein. C'est Dieu qui transmet ça. Et les versets, Et ces versets nous font penser un peu à la réponse que Dieu a faite à Job. Celle que Dieu fait à Job, vous aussi, vous avez déjà remarqué, Dieu répond d'une manière un peu difficile à comprendre, enfin en tout cas pour moi, mais ce qu'on pourrait dire en résumé, et c'est ceci, voilà. Deux éléments dans la réponse à Job, mais qu'on trouve ici aussi. La dimension écologique. Écologique, non pas système de nos politiques d'aujourd'hui, mais l'écologie de Dieu. Écologie, c'est l'interférence entre une multitude de créatures, c'est l'interaction entre une multitude de situations, l'interférence dans laquelle, et vous voyez bien dans Job, Dieu s'occupe de la brebis ou de l'âne enfin, on a l'impression que on tire sur une ficelle et que si tu tires sur la ficelle à l'autre bout de l'autre côté, ça va avoir un intérêt, un résultat. Et que Dieu, il règle les choses de telle manière que ça puisse fonctionner. Et c'est lui qui a créé tout ça, donc il sait comment ça fonctionne. Et ça fonctionne parce qu'il y a un équilibre, un écosystème. Et on sait ça aujourd'hui, nous. Hein, on nous l'apprend même à l'école, je pense. Hein, moi, pas à mon époque. Mais voilà, donc il y a quelque chose de la création de Dieu qui apparaît là. Tu sais, Job, je ne vais pas tout raser et puis tout recommencer. Non, non, tout est fait à la manière dont je veux le faire, dit Dieu à Job. Et pas ta règle à toi. Et puis il y a aussi la dimension temporelle. Temporelle. Ça va prendre du temps. Et l'épeautre se met sur le bord. Et ceci, cela. Il y a la technique, il y a le temps. Et ceci se fait comme ça. Et il y a des règles dans la nature, dans la création. Moi, c'est comme si je parlais pour Dieu, mais c'est Dieu qui nous dit ça. Hein? Hein? Moi, Dieu qui les ai installées, ces règles, je les observe. J'obéis à mes propres règles, parce que je suis un Dieu qui ne change pas, mais je n'obéis pas aux règles que les hommes veulent m'imposer. Heureusement, hein? Heureusement. Donc Jacques 5, verset 17, nous donne une réponse. Nous aimons les baguettes magiques. J'aime les baguettes magiques. Dieu ne fait pas les choses avec une baguette magique. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. La preuve, hein, c'est que ça fait longtemps que Jésus est venu et ça continue. Jacques, alors je sais plus où se trouve l'épître de Jacques, c'est embêtant ça. Jacques. fatigué. Jacques 5, versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et verset 1, verset 4 du chapitre 1. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Donc, il y a une règle de Dieu, c'est le temps, c'est l'écologie, c'est ça, et c'est nous à l'intérieur. Et nous, ben, on ne va pas imposer nos règles, on va de plus en plus prendre celles de Dieu. Et en tout cas, on ne va pas dire qu'on peut être sauvé par des règles, ça c'est sûr. Nous aimons les baguettes magiques, mais ça arrivera quand même un jour. Il nous est dit qu'un jour, en un clin d'œil, nous serons transformés comme le Seigneur Jésus. Donc ça va arriver quand même. Il y aura un coup de baguette magique à un moment donné. Mais ce n'est pas pour l'instant. Nous attendons le précieux fruit de la terre. Nous demandons, nous supplions le Seigneur de nous éclairer sur les règles que nous devons abandonner pour prendre ses règles à lui et qui sont bonnes, agréables et parfaites. Romains 12, verset 2. Ou qui sont comme un joug qui est doux et dont la charge est légère. Matthieu 11, 30. Nous le voyons dans ce monde, un monde rempli de règles, qui souvent nous asservissent. Jean 8, 31, si vous restez au stade de ma parole, dit Jésus aux pharisiens, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous restez au stade de ma parole, si vous restez dans ma parole, mais si vous restez au stade de ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bon, on n'a jamais été esclave de personne, hein, qui répondent. Libéré de quoi? Bah, des règles, de la loi, que vous êtes installés. Là, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la règle du péché, du règlement lié au péché et de la mort. C'est Romains 8, 2. dans Jean 8, 34, celui qui se livre au système de règles est esclave des règles. Hein, celui que livre au péché est esclave du péché. Il n'est qu'un esclave. Il ne fait pas partie de la maison. Il sera éjecté de la maison. Mais le Fils, qui sera toujours dans la maison, donc si c'est le Fils qui vous libère de vos règles, vous serez vraiment libre. Ben alors, Étienne, il n'y a plus de règles, alors. Ben, c'est là qu'on va prendre Josué. Je vous ai promis Josué, hein. Oh, je dépasse. Josué. Josué 24. Josué 24, c'est extraordinaire ce qu'il dit, Josué. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps et je veux vous en faire part. Et Josué, il dit au verset 14. Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, c'est-à-dire Nakhor, Abraham, oui, Haran, puis après, Nakhor il est peut-être resté là-dedans, Terak, son père aussi, ils étaient à Charan, là, et ils étaient sortis d'Our en Chaldée, ils sont allés à Charan, mais là, ils adoraient la lune, hein, parce que là, c'est un endroit où on adore la lune. Ouais, c'est le croissant, là. Et vous savez que sur la Kaaba, à la Mecque, il y a un endroit, c'est Allah, et Allah, c'est une lune. Et vous voyez sur les drapeaux de beaucoup de pays musulmans, une lune. À mon avis, il y a un lien. Mais c'était ce genre d'idolâtrie. Hein. Bon, Abraham est sorti de cette idolâtrie. Hein. L'autre aussi, semble-t-il. Les autres, je ne sais pas. Et puis après, il y avait les dieux d'Égypte. Alors, Josué dit, vous souvenez des dieux qu'il y avait avant. Après, vous avez eu les dieux de l'Égypte. Mais maintenant, vous servez l'Éternel. Ou alors même les dieux, non pas de l'Égypte, mais les dieux des Philistins. Donc vous avez tous les choix possibles. Et il dit, donc choisissez qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bon, c'est bien. Mais dans la réponse des Juifs là, des Hébreux qui sont là, c'est non, nous servirons l'Éternel. On dit, oh, ils sont dans de bonnes dispositions. Hein. Mais il y a une grande différence entre ce que vient de dire Josué et ce qu'eux répondent. Josué dit, craignez l'Éternel. Il faut que vous ayez la crainte de l'Éternel. Il faut que vous soyez ancrés sur le rocher, sur la pierre angulaire. C'est la crainte de l'Éternel. C'est toujours, c'est pas craignez l'Éternel dans le sens d'avoir peur de l'Éternel, c'est ayez le sentiment de la grandeur de Dieu. Et vous, après, vous avez des règles que vous appliquerez. Mais ayez d'abord le sentiment de la grandeur de Dieu, vous appliquerez vos règles après. Et après, Dieu vous sortira de vos règles. Enfin, il n'est pas dit ça, mais c'est ça. C'était ça le truc. Et ben non. Alors, Josué, il le sent bien, et il dit au verset 19, Josué dit au peuple, mais vous n'aurez pas la force. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Verset 19, hein, il est marqué. Vous vous rendez compte? Il dit, servez l'Éternel. C'est Josué qui dit, écoutez, servez l'Éternel. Puis en même temps, il dit, bah, vous ne saurez pas servir l'Éternel. Bah, attends, Josué, tu te trompes ou quoi là? Tu es en train de nous dire qu'il faut servir l'Éternel ou pas? Non, ce que Josué dit, c'est craignez l'Éternel. Et là, vous allez avoir des actions qui vont dans le sens de votre crainte de l'Éternel. Mais eux, ils disent, non, nous, allez, on prend Yahvé. Bon, on aurait pu prendre Kémosh ou Moloch ou la lune, ou ceci, cela, on prend Dieu. Hein? Voilà. C'est vrai qu'il a fait des choses pour nous, Dieu. Hein? Donc, comme il a fait des choses pour nous, on va le prendre. On va lui peut-être lui-même restituer un petit peu, lui renvoyer l'ascenseur, si vous voulez. En gros, c'est ça. C'est l'ambiance. Mais ce n'est pas ça. Verset 19. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Sortez de vos règles. Et c'est ce qu'on peut dire aussi à tous nos bien-aimés d'autres religions connexes à l'évangile, qui ne sont pas très ragoûtantes, sortez de vos règles. La foi en un système ou la foi en Dieu. Ne confrontons pas les deux. Voilà, excusez-moi, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué dans mes expressions, c'est un de mes défauts, mais bon. Vous êtes obligé de me subir, excusez-moi. Nous prions. Seigneur notre Père, notre Dieu. Ah oui, je voudrais bien quitter les règles que je me suis imposées en croyant que ce sont les tiennes. Mais Seigneur, je pense que tous nos frères et sœurs ici présents, nous sommes tous dans la même situation. Nous voulons être ancrés sur le roc et ne pas te présenter des trucs, des règles ou des comportements où nous penserions qu'on peut ajouter quelque chose au salut que tu nous as donné. Nous avons en tête, Seigneur, ce que tu as dit. Lorsque vous aurez fait tout, sachez que vous êtes des serviteurs inutiles. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu nous as dit ça, parce que ce n'est pas que tu veux nous rabaisser, mais tu ne veux pas que nous sentons, en pensant être des serviteurs utiles, que nous puissions oublier la pierre angulaire et puis nous installer dans un système de règles dans lequel nous placions notre foi. Seigneur, oui, en effet, tu es le Dieu merveilleux qui a, comme l'apôtre Pierre l'a vu, qui a une grandeur infinie et qui nous rend petits et dans la crainte de ton nom. Louange à toi, Seigneur, de ce que tu nous as sauvés par grâce. Tu nous as donné le salut et que toi, tu es le nom qui est au-dessus de tout nom et que tu nous gardes et tu es avec nous. Nous sommes sur le roc de ta parole, le roc de ta personne. Et là, nous sommes très bien et nous sommes dans le repos. Amen.